prise des otages à l'ambassade américaine, a fait la véritable révolution dans la révolution, qui a coupé le lien aux États-Unis et qui a donc coupé aux nationalistes libéraux l'espoir de régulariser leur république vers une république de style moderne et européen.
Qu'est-ce que cette révolution a changé dans la donne internationale dans la région ?
Cette révolution, elle a inquiété tout le monde d'abord, parce que tous les régimes des pays musulmans, que ce soit dans le bassin méditerranéen ou jusqu'en Indonésie, ont senti qu'au nom de l'islam, désormais, il y avait des forces qui pouvaient prétendre prendre le pouvoir, même sur un pays extrêmement puissant et policé, comme était l'Iran du Shah. Je crois que c'est ce qui a occasionné la guerre Iran-Irak de 80 à 88, largement soutenue par la plupart des pays musulmans, sauf la Syrie, et les puissances occidentales aussi ont soutenu l'Irak, que ce soit les Américains, les Français qui ont fourni des armes, et même les Soviétiques qui finalement étaient les grands fournisseurs d'armes de Saddam Hussein. Et finalement, je crois que les régimes islamiques ont tous mis un peu d'islam dans leur manière de gouverner, y compris Saddam Hussein, pour essayer de contrôler les mouvements islamiques en disant « non, pas du tout, nous sommes nous aussi musulmans et donc nous n'avons rien à changer à nos méthodes de gouvernement » et ils ont réprimé très fortement les mouvements qui se réclamaient d'une insurrection islamique.
On parle souvent de la révolution islamique comme un tournant dans la politique internationale de la région. Pourquoi ?
Disons, l'Iran était un peu le fer de lance de la politique américaine dans cette région. L'Iran était le point avancé de surveillance des installations russes. Il y avait des antennes qui surveillaient tout ce qui se faisait du côté nord de l'Iran. L'Iran était une puissance militaire très forte dans la région, le gendarme du Golfe Persique, qui servait de relais à la puissance américaine. N'oubliez pas qu'au début des années 70, l'Iran avait même envoyé un escadron de soutien aux Américains au Vietnam. Donc la chute de l'Iran déstabilisait complètement toute cette stratégie. C'est à ce moment-là que les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, jetant donc sur la région le spectre d'une guerre ouverte après la guerre froide entre les deux blocs. Et les Américains voyaient en danger toutes les richesses pétrolières de l'Asie centrale qui commençaient à être connues, et de l'Iran et peut-être du monde islamique en général. Et évidemment, le spectre d'une guerre du pétrole était terrorisante pour l'économie occidentale.
Quelle est la situation aujourd'hui dans la région entre les États-Unis et l'Iran ? Quels sont les rapports aujourd'hui ?
Alors les rapports, officiellement, il n'y en a pas. Mais en réalité, tout le monde sait que en Irak, les Américains ont absolument besoin du soutien de l'Iran, c'est-à-dire du soutien des chiites, qui sont la majorité de la population irakienne. Mais les chiites eux-mêmes ont été longtemps en exil en Iran. Donc les Iraniens, aujourd'hui, ont intérêt à la pacification de l'Irak, et c'est eux qui détiennent la clé de la réussite américaine en Irak. Les Américains le savent bien. Donc ils ont adopté une ligne plus réaliste et il semble qu'aujourd'hui on aille vers une normalisation par les plus radicaux des conservateurs qui sont réalistes aussi et qui savent très bien que leur intérêt économique et leur intérêt stratégique passent par la normalisation des relations avec Washington.